Un corps, une voix, un podcast qui parle de corps qu'on est, de corps qu'on a, qui nous encombre ou nous libère. Ce podcast ouvre un espace de parole aux inconnus comme aux spécialistes qui nous livrent un peu de leur image, de leur pensée, de leur mouvement et de leur savoir. Un corps, une voix, un podcast de Anne Zimmer. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette première saison d'Un corps, une voix. Dans les épisodes qui vont suivre, j'ai rencontré des personnes qui se posent la question du corps à travers un événement qui a bouleversé leur vie, ou bien par la pratique d'une activité qui met en jeu le corps, qu'elle soit artistique, sportive ou liée au bien-être. Bonne écoute!
Voilà, donc j'ai pratiqué la gymnastique volontaire pendant assez longtemps. Et j'ai eu envie de couper avec cette pratique pour trouver quelque chose de plus doux, de plus proche du corps, de quelque chose où on était plus à l'écoute de son propre corps, parce que dans la gymnastique volontaire, en fin de compte, on est plus dans la performance, le va-vite, on est plus centré sur quelque chose d'esthétique, entre guillemets, plus que dans une profonde envie de se ressourcer soi. Donc je me suis tournée tout naturellement vers le tai chi, Chuan. Et voilà, donc j'ai trouvé un cours de tai chi chuan à Aurillac, là où j'habite, voilà. Donc j'avais, il y avait plusieurs cours qui se présentaient, le taekwondo, mais voilà, naturellement je me suis tournée vers le tai chi, qui m'a paru être un bon compromis, puisqu'en fait, c'était une succession de mouvements faits de façon douce, mais en même temps il y avait quand même une certaine tonicité, donc ça me permettait de passer à quelque chose de, à la fois tonique, mais à la fois plus se ressourcer au niveau, se recentrer sur soi. Au premier trimestre, vraiment, j'ai adoré ce cours. D'abord parce que j'ai eu un accueil chaleureux de la part des gens qui y pratiquaient déjà. Et alors, quoi que le niveau qu'on ait, effectivement, on est accueilli. C'est ça qui était bien. Il n'y avait pas de challenge. Le prof était relativement à l'écoute des élèves. Donc, j'étais vraiment dans un cocon, je commençais à pratiquer. Donc au début, j'étais plus dans quelque chose de répéter les mouvements, apprendre les enchaînements, plus dans une réflexion de comment enchaîner les mouvements. Voilà, ça c'était une première partie. Alors ce que j'ai apprécié particulièrement dans le tai chi chuan, c'est qu'en fait, on est à travers le mouvement que l'on fait, on s'écoute beaucoup plus au niveau corporel, on a la sensation, on est à ce qu'on fait, on est à l'écoute de son corps, alors que dans la pratique de gym habituelle, pas du tout, enfin moi en tout cas pas du tout, j'étais pas du tout là-dedans, alors que là ça m'apportait un bien-être corporel important, parce qu'en fait on est tout à fait à ce qu'on fait et on ressent des choses à l'intérieur de son corps, des différences de température même, je me souviens avoir eu tantôt chaud, tantôt froid. Enfin voilà, on ressent beaucoup plus du bien-être corporel. Et c'est pas de la méditation, mais c'est vraiment à l'écoute de son corps. Enfin dans le tai chi chuan, moi en tout cas j'en étais ça. Au premier trimestre j'en étais à ça de la découverte, c'est qu'effectivement je me sentais plus proche de ce que je pouvais ressentir au niveau kinesthésique, sensitif. Voilà, j'étais plus là-dedans. Et c'est ça qui m'a plu dans le tai chi au départ. Et puis, en fait, petit à petit, je pense que j'ai lâché des choses. Et comme j'avais pratiqué déjà un trimestre, j'ai commencé à relâcher, je pense, justement cet aspect réfléchi pour finalement intérioriser plus le mouvement. Je l'avais beaucoup plus intériorisé. Du coup, j'étais plus du tout dans réfléchir. J'étais dans la sensation, dans le sensitif. À partir du moment où effectivement j'étais dans ce ressenti corporel, c'est un peu comme si dans un barrage en fait venait d'exploser. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à avoir des écoulements au niveau du nez. Donc je me mouchais sans arrêt tout au long des cours. Donc au début, j'étais pas tellement inquiète, je me suis dit, bon, habitant dans une ville froide comme Aurillac, ma foi, c'est un petit rhume. Donc je venais avec mon paquet de Kleenex et je me mettais un petit peu à l'arrière du cours pour éviter de déranger donc les gens avec qui je pratiquais. Et puis ça a été de pire en pire, donc ce nez a fini par vraiment couler, donc j'ai passé des boîtes de Kleenex sans faire de publicité malsaine, et puis ensuite, eh bien malheureusement j'ai commencé à pleurer, voilà, c'est parti au niveau des larmes, donc je pleurais, sans pouvoir vraiment arrêter ce flot de larmes, c'est comme si voilà un barrage avait explosé, comme si quelque chose s'était dans mon corps complètement ouvert, et du coup je laissais aller totalement les émotions sans pouvoir les arrêter, sans pouvoir avoir quelconque prise là-dessus. Je ne pouvais plus m'arrêter et de moucher et de pleurer. Donc ça devenait très très gênant en fait. Alors il s'est passé que j'ai quand même un petit peu attendu, je me suis dit bon, ça va s'arrêter, c'est peut-être un dur moment à passer. Bah du coup, j'y allais un petit peu à reculons, j'y allais parce que je suis quelqu'un qui a envie de, dans une pratique, d'aller à fond, mais en même temps, je voyais que plus je faisais du tai chi, en tout cas dans cette deuxième partie de trimestre, et plus je pleurais. Et donc, j'ai fini donc par aller voir mon prof, qui au demeurant n'était pas venu me voir, je pense qu'il s'était aperçu, mais qui attendait certainement que ce soit moi qui vienne. Et donc, je suis allée lui parler de ma difficulté, puisqu'en fait, le fait de me laisser aller, ça me gênait pas en soi. Ce qui me gênait, c'était plus de déranger le cours et d'être vue aussi dans cet état de profonde tristesse. J'avais l'impression d'être dans une tristesse que je pouvais même pas contrôler. Voilà, c'était vraiment des émotions fortes qui sortaient, mais je ne savais pas d'où ça sortait. Et donc ce prof, donc effectivement, m'a signifié qu'il s'était aperçu de ce flot de larmes salées, et il m'a dit qu'en fait c'était certainement une tristesse que j'avais emmagasinée depuis la nuit des temps, que j'avais bien contrôlée jusqu'à présent, et qu'à travers cette activité de tai chi, en fait, j'avais totalement laissé passer, c'est-à-dire que tout partait comme ça, sans retenue. Voilà, je ne retenais plus rien, grâce certainement donc à cette pratique du tai chi, et tout sortait comme ça en flot de larmes et de pleurs et d'écoulement du nez. Donc, j'ai fini par lui dire que pour moi c'était difficile de pouvoir continuer le cours, et donc il m'a proposé de partir en cours de gym douce avec sa femme qui pratiquait la gym douce. Et donc j'ai préféré partir de ce cours. J'ai pratiqué la gym douce ensuite pour finir l'année. Alors j'ai continué à avoir effectivement des larmes, mais c'était beaucoup moins difficile parce que c'était plus une gym au sol et que du coup je me sentais plus. En plus le groupe était plus petit et du coup Puis bon, la prof était informée de ce qui m'est arrivé puisque ils sont mariés femmes, hein, les deux. Donc du coup il s'était informé de mon passage entre le tai chi et la gym douce et pourquoi j'étais passée de cette activité à l'autre. Du coup j'ai pu finir l'année en étant quand même un peu plus sécurisée, on va dire, et de pouvoir pleurer mais sans être trop en danger, en gros. Voilà. Je me suis sentie quand même très très mal. Ça a été très difficile cette expérience. J'ai pas repris le tai chi à ce jour. Voilà.
Qu'est-ce qui va nous éveiller à l'éveil, c'est
oui.
Ça que tu veux dire?
Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui nous échappe? Est-ce que
ça dépend de chacun. Pour certains, c'est l'état de la terre, les climats qui changent, la pollution. Pour d'autres, c'est un accident, une souffrance qu'ils ont vécue. Ça peut être un divorce pour certains, pour d'autres c'est un enfant qui meurt ou une agression qu'ils ont subie. Parfois il y a des éléments comme ça. Il y a plein de trucs qui peuvent aller vers. Il y a pas avant-hier une personne qui est venue en soin qui m'a dit, elle s'est fait super mal au pied avec son mari et la réaction du mari. À partir de là, tout s'est ouvert et s'est dit mais qu'est-ce que je vis quoi. Et elle a commencé à aller vers la conscience d'elle, de ce qu'elle a toujours vécu à partir de cet accident-là. C'était pas un accident hyper grave, mais d'autres fois, ça va être, il y a une personne qui, une fois, m'a expliqué, une personne du cabinet aussi, elle appelle en urgence, au cabinet, on en prend beaucoup, hein. La fille appelle la maman. Maman, je ne vais pas bien, et j'ai besoin de toi. La mère, elle va la voir comme ça, direct, avec les tabliers du boulot et tout. Et la fille lui dit, mais je pensais pas que tu m'aimais autant. Là, ça a commencé les chemins de conscience pour cette personne, pour la mère. Parce qu'elle s'est dit, mais comment j'ai pu ne pas exprimer que je t'aimais autant, que tu sois étonné ça? Et elle a commencé à développer des problèmes physiques. Parce que c'était une porte de la conscience. Elle me dit, bah, c'est depuis, j'ai commencé à avoir, je m'en rappelle plus maintenant, hein. Je crois que c'était pas mal au dos ou mal au ventre, je sais pas quoi, mais à partir de ce, et elle sait que c'est à partir de ce moment-là. Parce que où j'avais placé les centres d'intérêt pour que ma fille me dise ça? Et là, elle a commencé son chemin de conscience comme ça. Il n'y avait ni un accident, ni rien. Sa fille, elle a vécu une crise d'angoisse, ou je sais pas quoi, ce qu'elle avait vécu, et voilà. Et que sa fille puisse douter qu'elle l'aime autant, l'amener à la conscience.
Et qu'est-ce qui a fait que les douleurs sont apparues alors qu'il y a eu prise de conscience?
Parce que parfois, les corps est tellement opprimé, c'est comme s'ils pouvaient pas s'exprimer. Et parfois, il faut un accident, quelque chose de très grave pour que ça commence à s'exprimer. Il y en a qui, par exemple, avec les soins que je fais, parfois ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui ont une sensibilité, une conscience de leur corps, qui est très très vague, mais vraiment très vague, et que ça se développe en faisant des soins. Et après, ils sentent les choses. C'est-à-dire, je peux avoir une personne qui me dit, bah, j'ai toujours des aigreurs d'estomac terribles quand je suis en vacances. On fait des soins, et il va avoir l'aigreur d'estomac juste au moment du boulot où il est hyper tendu. Parce qu'au début, les corps étaient tellement opprimés que dans la détente des vacances, il pouvait seulement s'exprimer. Et après, il s'exprime illico presto au moment où il est en train de vivre la situation qui l'angoisse ou qui le stresse. C'est-à-dire que le corps, souvent, comme il est mis de côté, il faut qu'il suive. C'est pour ça que quand il lâche, il lâche. Et parfois, il se dégringole tellement il a tenu. Du coup, créer des ouvertures, souvent les personnes qui ont toujours des petits bobos, qui prennent soin d'elles, sont celles qui vivent le plus longtemps, c'est ce qu'on dit. Parce qu'il y a un lien au corps avec lequel il est beaucoup plus direct. Les bobos apparaissent tout de suite. Et ces personnes, il a jamais rien eu, et d'un coup il meurt. D'un coup. Alors qu'il a jamais été malade. Et peut-être il a peut-être 50 ans, 60 ans. Pourquoi d'un coup comme ça? Parce que tout était tellement retenu qu'il, quand il s'exprimait, pour partir. Enfin, il y a des choses comme ça, hein. Après, il faut nuancer ce que je dis, mais.
Oui, mais c'est intéressant. Mm. Ça nous échappe. C'est comme un poème.
Qu'est-ce qui nous échappe, tu veux dire?
L'expression du corps, le langage du corps. Mm-hmm. Enfin, j'ai l'impression, est-ce que tu racontes que c'est ça? C'est quelque chose qui nous échappe?
Non, c'est plutôt une fréquence à laquelle il nous échappe parce qu'on ne se met pas dans cette fréquence-là.
Oui, mais c'est pas volontaire. C'est une certaine disponibilité à nous-mêmes,
oui,
à ce qu'on vit.
Oui, c'est ça, oui.
Mais ça n'est pas, on ne peut pas décider. C'est pas quelque chose qui se décide. D'avoir mal à tel endroit ou
non,
mal à tel endroit.
Non, non.
C'est ça que je veux dire.
Oui. Mais par contre, on décide de se mettre dans une écoute. Non pas pour tomber malade et avoir des maux, mais comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le corps, c'est l'espace de dialogue entre l'être et la personnalité, si on veut. Hein. Et on décide de regarder cet espace de dialogue autrement. Et là, si on décide d'écouter ça, on va se mettre dans une fréquence dans laquelle c'est pas quitter la poésie, mais c'est une poésie différente. Tu vois?
Ouais.
Parce que parfois, il y a des gens qui te disent, des personnes, parfois ça va être exprimé, c'est comme si ouvrir des portes, ça pourrait ouvrir la porte aussi à des difficultés. Et pour ne pas avoir les difficultés, je préfère rester là où j'en suis. Mais là où tu en étais heureux, il y en a qui sont moins bien que moi, il y en a qui sont pires. Hein. Je ne suis pas si malheureux que ça. Bien, c'est bien, c'est un choix.
S'il le décide.
C'est un choix. C'est un choix. C'est hyper important que la personne soit libre de faire ce qu'elle décide. Mais...
Il n'y a pas une chose mieux qu'une autre.
Non.
La personne choisit.
C'est fondamental, ça. Ça, c'est fondamental.
Donc, si la personne choisit de ne pas écouter, de vivre à 100 à l'heure et de mourir, finalement, c'est un choix.
C'est son choix, oui. Après, on croit au bonheur ou pas? Est-ce qu'on peut dire, tu dis, je vais mourir, je suis heureux de mourir par rapport à ce que j'ai vécu. Je suis heureux de ce que j'ai vécu par rapport, je vais mourir, est-ce que je suis heureux de ce que j'ai vécu? Est-ce que je suis heureux aujourd'hui de ce que je vis? Placer ces mots-là, quoi. Est-ce que je peux les placer, ces mots-là? Est-ce que les mots bonheur, heureux, je peux les placer?
Ah oui, il y a eu une rencontre très forte avec l'histoire du corps, c'est la danse contact impro, et notamment dans un stage qui était ouvert aux gens du tango, donc ça s'appelait Tango Contact. Donc, j'avais fait un stage, alors j'étais curieuse du tango et j'étais curieuse de ce mot-là, contact, et là, pour moi, ça a été aussi le début d'une aventure et de pouvoir constater que le contact avec l'autre pouvait être simple, support, découverte, sensualité, mais une sensualité pas érotisée, de la douceur, pas avec de la douceur, avec de la précaution, mais aussi avec du dynamisme, avec de la tonicité, avec l'impression en tout cas de pouvoir aller plus loin avec son corps dans la danse, dans le mouvement, ou de manière plus fine, de manière plus précise. Enfin, j'ai l'impression que je pourrais mettre plein de mots sur ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là. Et là, j'ai eu envie de découvrir un peu plus la danse, un peu plus cette pratique de la danse contact. Voilà, c'est... Moi, j'ai même une espèce d'ouverture, une découverte, ouais, quelque chose comme un enfant tout d'un coup qui s'aperçoit qu'il peut aller dans ces endroits-là, dans peut-être un peu plus de mouvement ou dans la rencontre avec l'autre, sans danger, voilà, en sécurité. Et puis il y avait peut-être la joie, le jeu, la sensualité quand même, elle était présente pour moi. Mais. Dans un environnement, dans un cadre, dans ce cadre-là. D'accord. Il y avait l'autorisation d'aller, l'autorisation, c'est un peu rigide comme mot, mais la possibilité, l'ouverture à l'autre. C'était vraiment encore, ça s'est passé dans le corps, hein, avec des canaux qui ne sont pas du tout dans la tête. Il y avait aussi quand même la possibilité de poser des mots sur tout ce qui se passait. Je crois que ce jour-là, il y avait aussi la découverte du lieu, et là encore, il y a la question de l'esthétique qui revient. C'était dans un lieu que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un lieu repère. Et cet endroit-là en particulier, cet atelier, c'est un ancien atelier de tissage de soie. Et donc, ils ont gardé des métiers à tisser. Il y a tout un parcours pour arriver dans la salle d'atelier. Il y a des grandes fenêtres d'atelier, mais qui laissent passer la lumière. Il y a un parquet un peu abîmé. Puis il y a de l'espace. Il y a des tissus qui pendent. Et puis il y a une odeur d'huile aussi. Il y a un côté insolite dans ce lieu. Et qui laisse énormément de liberté. J'ai senti que je pouvais respirer aussi. Il y a le cadre aussi, et puis il y a la guidance. Je pense à cette guidance, à l'enseignement, à la transmission. Et peut-être, oui, comme un support, cette guidance, mais tu peux aller là. Comment on va toucher l'autre? Comment on peut assouplir son corps d'une autre manière, dans davantage de ressenti intérieur? Tiens, ça c'est un os. Tiens, ça c'est des muscles. Et puis là, il y a des ligaments où il y a... du liquide à l'intérieur du corps. Ouais, c'est des choses que je découvrais, alors que quand même, à cette époque-là, j'étais médecin depuis longtemps.
D'accord. Est-ce que le mot bonheur et le fait d'être heureux, c'est lié au vécu corporel?
Bah, c'est lié avec. Mais les corps, ils nous accompagnent dans la vie, non?
Oui. Et est-ce que c'est important, ces deux mots, dans la vie?
Bah, ça dépend pour chacun. Ça, c'est une question de choix, on disait. C'est une question de choix. Et une personne qui est beaucoup plus heureuse, je sais pas. Peut-être elle a une prothèse de genou, peut-être je sais pas quoi, mais elle est heureuse dans la vie, quoi. C'est pas celui qui a le corps parfait, sans mots, qui est heureux. Hein. Le but, c'est, je me réalise dans la vie, je suis heureux. Et le corps, il m'accompagne. Il y a des gens qui ont une santé d'enfer, peut-être ils sont pas heureux, mais s'ils commencent à aller vers le bonheur, ces corps-là, je sais pas, qu'est-ce qui ferait ces corps-là? C'est intéressant à voir. On prend une personne qui n'a rien, on prend une personne de 50 ans, et tout parfait, il a jamais mal, tout va bien. Il te dit qu'il est pas heureux. Et tu prends une personne qui a des mots. Et si, il te dit qu'il est heureux. Donc, c'est intéressant de voir. Bon, toi, que tu n'es pas heureux, si tu vas vers le bonheur, qu'est-ce que tu veux faire pour aller vers le bonheur? Ah bah, changer de région, vivre à l'étranger. Et, oui, mais j'ai trop peur. Mais si tu vas oser dans tes peurs, ah voilà, peut-être tu vas commencer à avoir mal au cou. Mais il va aussi aller vers son bonheur. Et si aucun de deux fait rien, comment ils vont être à 90 balais? Et l'un et l'autre, s'ils font rien. Enfin, c'est ça, en fait. Hein.
Donc, ça amène un regard spécifique sur la douleur. Est-ce que tu dirais que la douleur n'est pas systématiquement liée à du drame? La douleur, ça peut être autre chose.
Autre chose que les drames?
Oui.
Ben évidemment, oui. C'est évident. La douleur, je n'ai pas vécu des grosses, grosses douleurs. Mais des par-ci, des par-là, il y en a tout le temps, des petits trucs. Hein. Par-ci, des par-là, il y en a. Et, bon, il range des dents, des choses comme ça. Après, il y a des gens qui ont des vraies douleurs. Mais je pense qu'il y aurait tellement de témoignages des personnes qui sont les douleurs qui l'ont amené vers le bonheur, quoi. Qui ont été la porte. Et les douleurs, ça dépend comment il est vécu. Qu'est-ce qu'on a? En fait, tout est par rapport à la référence qu'on a. La référence de base qu'on a. Je vis sans douleur, donc du moment où j'ai une petite douleur, je suis malheureux. Ou mon but, c'est de vivre heureux, quoi, de vivre dans la joie. Donc avoir une douleur, ça n'enlève pas la joie. C'est ça, en fait. C'est comment on se place, quoi, comment on se situe, quoi. Mm-hmm. Mm.
Merci aux personnes interrogées de nous avoir partagé un peu de leur expérience avec générosité. Ce podcast a vu le jour grâce à Bérangère Langlois, merci à elle et à toutes les personnes qui m'ont soutenue jusque-là. Si vous avez pris plaisir à nous écouter, n'hésitez pas à liker et à partager, cela nous est utile. Et bien sûr, cela fait toujours plaisir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Encore une fois.